Europe 1, bien fait pour vous. 11h30, Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour.
Bienvenue.
Mélanie.
Bien fait pour vous. Waouh, belle imitation. Votre magazine bien-être dédié au mieux vivre et à votre santé, c'est tous les jours de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui, en ce 24 décembre, Julia, quel est notre programme?
Eh bien, on va un peu changer nos habitudes, Mélanie, en ce jour de réveillon. On vous propose une immersion tout au long de l'émission dans ce que signifie vraiment pour nous Noël, sa magie, que l'on soit petit ou grand. Alors Noël, on l'aime ou alors on le déteste pour de multiples raisons, on verra tout cela. Mais ici, dans l'équipe, je vous cache pas qu'on est plutôt dans la team qui trépigne d'impatience dès que le sapin est en place. Alors il y aura pas mal d'invités autour de nous pour trouver, retrouver et décrypter la magie de Noël ce matin. D'abord, deux psychologues familiales, Aurélie Calais et Clémence Prompsy. Elles vont nous aider à comprendre ce que provoquent en nous les décorations, le calendrier de l'Avent ou même les films de Noël. On va analyser même peut-être quelques chansons de saison qui nous mettent en joie dès les premières notes.
Et puis Julia, dans cette édition de Bienfait pour vous spécial Noël, on parlera aussi de la longue histoire de Noël. Vous aurez des tas d'infos inédites à ressortir ce soir au réveillon. Pour nous éclairer sur tout cela, c'est Alain Cabantou, historien et professeur émérite d'histoire, qui sera avec nous. Quelles sont les origines de la fête de Noël? Depuis quand s'offre-t-on des cadeaux et pourquoi un sapin? Il nous expliquera tout. Et puis je vous le signale aussi, hein, un invité surprise viendra dans ce studio. On l'attend avec quelques biscuits et un verre de lait. Il nous a dit qu'il aura peut-être un peu de mal à se garer avec son traîneau. Restez bien avec nous pour percer ce mystère.
Ouh, je me demande bien ce que c'est, quel mystère. Ensuite, Mélanie, à midi, dans notre séquence tendance, la chronique gastronomie sera portée par Marion Sauveur. Elle nous propose un mets de fête. On va apprendre à sublimer le pain d'épices aujourd'hui. Ensuite, ce sera Cécile Coumeau qui prendra les rênes avec une tendance qui peut d'ailleurs donner des idées de cadeaux aux retardataires. Elle a testé pour nous un massage sonore. Franchement, je suis bien curieuse d'en savoir plus. Moi, les massages, normalement, j'y connais un rayon, mais alors sonore, j'ai hâte de découvrir.
Et puis, Julia, nous finirons ce tour de table avec notre coach sportif, Jean-Marc Delorme. Oui, oui, vous avez bien entendu. Mais l'idée, c'est d'avoir les infos pour la détox avant les dégâts des fêtes, en fait. Il va nous donner ses conseils pour réparer en douceur les quelques excès qui s'annoncent dans les jours qui viennent. Mais tranquille, hein, vous affolez pas.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 et dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Aujourd'hui, on va se poser ensemble cette question. Et si on retrouvait l'esprit de Noël?
Eh oui, Julia, j'imagine que pas mal de nos auditeurs sont déjà en plein préparatif pour le réveillon de ce soir. Ça tombe bien, hein, restez avec nous. On peut tout à fait farcir une dinde tout en écoutant la radio. C'est ça qui est pratique. D'autant qu'on va vous donner plein d'infos sur tout ce que Noël provoque chez nous. Pourquoi certains sont autant excités par le sapin, les cadeaux ou même dévorent déjà depuis quelques semaines tous les films de Noël disponibles sur les bonnes plateformes de streaming. On va parler de la longue histoire de Noël également avec un historien. C'est vraiment un très joli programme hein, qu'on vous propose ce matin. Et qui dit joli programme, hein, dit forcément qu'il y a Clément Lanoux autour de la table.
Bonjour, bonjour Clément.
Si,
Clément.
Bonjour, quel accueil. Merci pour vos voix, pour ce massage sonore qui a déjà commencé effectivement. J'ai eu le Père Noël ce matin sur Instagram directement. Il est très moderne. Il m'a envoyé un petit message. Il m'a fait une demande. Il m'a dit est-ce qu'on peut interroger que des enfants, s'il te plaît, Clément, aujourd'hui. Donc je vais répondre parce que quand même, il bosse beaucoup pour nous, le Père Noël. Là, j'ai décidé de sympa avec lui, que des enfants. Aujourd'hui dans ce reportage et j'ai commencé par leur dire, alors pour les derniers rassurez-vous, la poste m'a dit aussi que c'était bon, on peut envoyer les lettres maintenant même si c'est ce soir, si elles partent, si vous avez oublié ça peut encore
jamais
marcher,
trop tard.
Donc j'ai demandé aux enfants, mais elle serait comment votre lettre si vous envoyez une lettre maintenant?
Bonjour cher Père Noël, j'ai été très sage cette année. J'ai fait beaucoup de choses pour les gens. Je voudrais un maximum de cadeaux, merci.
Bonjour Papa Noël, j'ai été très sage aujourd'hui. À l'école j'ai fait beaucoup de choses. À la maison, j'ai fait beaucoup de choses. Par exemple, du ménage, passer de l'aspirateur, faire le repassage.
On peut ça, les adopter, ceux-là?
Non, c'est des esclaves, apparemment. C'est pire ça. Que les enfants. Vous avez vu comme les enfants sont mythos le jour de Noël. Demandez à un enfant aujourd'hui, est-ce que tu étais sage cette année? Trouvez l'enfant qui va me dire non, il n'existe pas, je pense. Alors, qu'aiment les enfants à Noël? Je me suis demandé, est-ce que c'est l'esprit de famille? Est-ce que c'est la dinde? Est-ce que c'est les cadeaux? J'ai l'impression que c'est les cadeaux, je ne sais pas pour vos enfants, mais du coup, j'ai demandé aux enfants, et si Noël, il n'y avait pas de cadeaux, est-ce que ce serait aussi bien?
Oui, parce que à Noël, eh ben, on peut manger le plat qu'on veut, il y a un gâteau pour le dessert, et on peut prendre des chocolats.
C'est nul sans les cadeaux. Après, on n'a pas joué, on peut jamais jouer. Moi, s'il n'y avait pas de cadeaux, moi, je serais partie dans ma chambre, je claquerais la porte. Mais peut-être que Noël, c'est une réunion de famille, mais on a le droit d'y jouer.
on ne va pas non plus se faire avoir. Alors, à quelle heure ils vont arriver ces jouets? À quelle heure passe le Père Noël? Ça dépend où vous habitez, ça dépend de sa tournée, il peut prendre du retard, ça dépend s'il s'arrête, qu'il prend deux verres de lait au lieu d'un. Mais globalement, chez vous, il passe à quelle heure?
À minuit. En fait,
il commence en Afrique et à minuit, il arrive vers la fin de sa tournée en France jusqu'à l'Espagne.
Moi, quand je suis chez Papou et Mamou, j'attends le Père Noël et après quand il arrive, j'ouvre mes cadeaux.
Il est gentil, le Père Noël. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question. Ça, est-ce qu'il est vraiment gentil, le Père Noël?
Bah oui, parce qu'il donne des cadeaux.
Des fois de main, parce qu'il leur donne ses lutins à travailler, même le dimanche. Oh. Et ça, on n'a pas le droit de faire travailler les gens le dimanche.
Oui, mais au pays du voilà. Père Noël, c'est différent, le droit du travail.
Oui, hein, bah oui, ouais. Des enfants très syndiqués. Et puis, je terminerai justement avec cet enfant qui avait même une réflexion, si jamais il passe nous voir dans cette émission, pour le Père Noël. Un petit truc qu'on ne comprenait pas.
Quelque chose à dire au fameux Père Noël. Mais en vrai, pourquoi on l'appelle Père Noël alors que lui, c'est pas Noël?
Comment tu voudrais l'appeler?
Le Père Pôle Nord.
Le Père Pôle Nord. Donc voilà, c'est une idée à lui soumettre si jamais il vient tout à l'heure. Merci les enfants et joyeux Noël.
Merci à vous Clément Lanoux pour cette scintillante entrée en matière. Que de beaux témoignages comme toujours.
Ils sont énervés déjà, vous entendez à la voix là.
Qu'est-ce que ça va être à minuit. Et donc tout de suite nous allons passer à notre très joli plateau, un plateau de fête franchement. Je vais déjà vous présenter mesdames. Bonjour Clémence Prompsy.
Bonjour.
Bonjour Aurélie Calais.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux psychologues et fondatrices de Kids & Family. Et autour de la table également, Alain Cabantou. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes historien et professeur émérite d'histoire, auteur du livre Noël, une si longue histoire chez Payot. On va démarrer avec vous Alain. Est-ce qu'on sait déjà d'où vient ce mot Noël?
Enfin, on le sait... On sait sans le savoir, comme pour tout ce qui touche Noël, on marche sur des œufs, si je puis dire. Il y a tellement d'interprétations. Alors, on peut dire que Noël vient de natalis, donc la naissance, que Noël vient de nouvelle, aussi, donc la bonne nouvelle, en fait, et que Noël peut venir aussi d'Emmanuel, donc le nom donné à Jésus, qui est
Élidé
en Noël, enfin, et Noël et Noël, voilà. Donc vous choisissez.
D'accord, et donc Noël, c'est païen ou religieux à l'origine, comme fête?
À l'origine, c'est forcément religieux. Oui. C'est-à-dire qu'à l'origine, enfin, je ne sais pas ce que vous appelez l'origine d'ailleurs, hein, mais disons qu'initialement, voilà, la fête de Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus, point final. Point c'est final, pas autre ouais. chose.
Donc le 25 décembre, c'est vraiment l'anniversaire du petit Jésus?
Ben non, pas vraiment. pas vraiment, parce qu'il n'est sûrement pas né un 25 décembre. Voilà.
Alors pourquoi on a choisi cette date?
C'est très compliqué.
Alors
ça.
Non.
C'est très compliqué. Il y a énormément de raisons qui s'entrecroisent, qui se chevauchent, qui s'additionnent. Disons que initialement, les hommes parfaits devaient naître le jour de leur décès, le jour de leur mort.
Ah.
Et très vite, dans le christianisme ancien, on a pu calculer, que Jésus était mort le 25 mars. Donc il aurait dû naître le 25 mars. Or, le 25 mars, c'est la fête de l'Annonciation. C'est pas la fête de la naissance, c'est la fête de la conception particulière de Jésus. Donc ça peut être une explication, ce qui fait que du 25 mars, on passe au 25 décembre.
Oui, c'est mieux le 25 décembre. Sinon, on pourrait faire de Noël le 25 mars.
Il y a,
le 25 décembre.
Il y a évidemment beaucoup d'autres explications. Les seules petites références que l'on a dans les deux, notamment dans l'évangile de Luc, c'est qu'il est probablement né au printemps, puisque les animaux étaient dehors et les bergers aussi. Hein.
D'accord. Aurélie Calais, Clémence Prompsy, on va voir aujourd'hui avec vous notre part de Noël, notre aspect, les bienfaits en tout cas de l'esprit de Noël. Ça commence généralement très tôt, en tout cas chez moi, chez Julia, je crois que c'est pareil, c'est dès le 1er décembre. Il y a le calendrier, le fameux calendrier de l'Avent. Pourquoi il nous fait autant de bien que ça, que ce soit aux petits comme aux grands, Clémence ou Aurélie? Aurélie.
Ouais, en fait, je pense que le calendrier de l'Avent, d'abord, ça fait une espèce de décompte, mais un décompte positif. Plus j'ouvre des cases, plus finalement la fête de Noël avec les cadeaux et famille arrive. Et d'ailleurs, sur ce calendrier de l'Avent, ce qui est rigolo, c'est que maintenant, on voit le fait d'avoir un petit cadeau tous les jours, c'est top. Et aujourd'hui, le nombre de calendriers de l'Avent pour adultes...
Ah oui, on en a souvent parlé dans l'émission, c'est dingue.
Il y en a pour, avec de l'alcool, des produits de beauté... Enfin,
bien sûr, tout. Y a des jouets coquins, on a tout vu ici,
sur ce plateau. Mais du coup, ça fait autant plaisir, c'est vrai, aux grands qu'aux petits, ces calendriers. Enfin, c'est cool d'avoir une petite surprise tous les jours.
Ça, c'est sympa. Clémence, si on a des enfants, j'imagine que c'est aussi la promesse de matin plus agréable, avec des enfants de meilleure humeur, non? Le calendrier de l'Avent.
Oui, en fait, c'est une petite récompense pour eux. Donc, c'est vrai que c'est super agréable. C'est un petit récepteur à dopamine. Clic, on appuie. Et c'est vrai que c'est vraiment gai d'avoir une petite nouveauté. Après, si vous avez envie de décliner toute l'année avec une phrase positive ou...
Ça coûte moins cher.
Une danse de la joie. Enfin, chaque petite récompense et chaque petite attention, évidemment, sera toujours la bienvenue.
Alain Caventou, justement, les calendriers de l'Avent, d'où vient l'origine de ce présent là, qu'on fait aux enfants, aux adultes, aujourd'hui indifféremment ?
L'origine, c'est probablement une origine allemande et protestante, essentiellement. Alors, à quelle période, à quelle date ? On ne sait pas trop, au cours du 19e siècle, les parents donnaient des images pieuses aux enfants pendant la période de l'Avent pour les faire patienter. Voilà. Et au fur et à mesure...
Le principe était le même, en tout cas.
Voilà, le principe était le même, c'était le principe de la patience et de l'impatience.
Et ça vient d'Allemagne, hein, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Mais notamment des régions protestantes allemandes. Mmh.
Hein. Et le sapin, il vient d'Allemagne aussi,
oui,
non ?
Oui, bien sûr.
Et ça remonte à quand, cette tradition ? À très longtemps,
c'est difficile, là, si on veut finir.
On a des références du sapin comme symbole de l'arbre de vie, mais en creux, c'est-à-dire qu'au début du 15e siècle, on a des textes qui disent « Il est interdit de couper des sapins pour Noël ». Donc ça veut dire que...
Qu'on le faisait déjà avant.
Ben voilà, on le faisait déjà avant. Mais initialement, et pendant une période très, très longue, jusqu'au début du 19e siècle, les sapins sont dans l'espace public ou semi-public. Mmh. C'est-à-dire ils sont soit dans les rues, soit dans les églises, soit dans les lieux où se réunissent les corporations, par exemple. Et pas du tout
à domicile.
Dans le domaine domestique.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, Let it snow.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission dans laquelle on vous parle tous les jours de notre vie quotidienne, de comment la rendre encore meilleure. Et donc aujourd'hui, en ce 24 décembre, on ne pouvait pas faire autrement que de vous livrer sur un plateau dans vos oreilles l'esprit de Noël et ses bienfaits. Alors ce tour de magie, on le fait avec nos invités Clémence Prompsy et Aurélie Calais, toutes les deux psychologues et fondatrices de Kids and Family. Et avec nous également Alain Cabontous, historien, professeur émérite d'histoire et l'auteur du livre Noël, une si longue histoire parue chez Payot. Alors justement Alain, depuis quand on fête Noël de cette façon, avec les cadeaux sous le sapin ? C'est assez récent je crois.
Oui, c'est assez récent. Et c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure. C'est-à-dire que on sait très bien que dans l'ensemble de l'Europe, jusqu'à une période qui commence à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de cadeaux. Il y avait des cadeaux dans les familles bourgeoises et dans les familles aristocratiques, mais dans l'ensemble des familles, il n'y avait pas de cadeaux, comme il n'y avait pas de repas comme on fait aujourd'hui. Hein. Ce sont des choses qui se sont progressivement imposées. Et c'était pas d'abord, le Noël, ce n'était pas d'abord le jour des cadeaux. Ce n'était pas d'abord ça, ni forcément le jour du gros repas, même si on pouvait manger un peu mieux ce jour-là. Mais c'était fonction aussi des possibilités sociales et économiques des gens.
Mais c'est vraiment la reine Victoria, j'ai entendu dire ça, qui a lancé cette tendance ou pas du tout ?
Non, pas du tout, non.
Mais alors pourquoi elle se retrouve là-dedans ?
Parce qu'elle a épousé Albert de Saxe-Coburg, qui lui était d'origine allemande, comme son nom l'indique, et du coup il a importé cette espèce de tradition noélique du sapin en Angleterre, qui s'est beaucoup développée, alors que par exemple dans les pays... comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Portugal, ça ne marchait pas du tout, le sapin. C'est bien une dimension, je dirais, d'une civilisation germanique qui a développé le sapin. Mais Victoria, en gros, n'y est pour rien. Elle aurait épousé un Italien, je ne sais pas si...
Aurélie Calais, au-delà de Noël, les rituels, c'est hyper important pour aller bien, pour nous tous, hein, d'ailleurs, pas que pour les enfants, psychologiquement. Les anniversaires, faire la galette, ça nous provoque quoi, ces rituels dans le cerveau et sur notre psychisme ?
Ben, disons que ça ponctue un petit peu l'année. C'est vrai qu'on a les vacances d'été. Noël, c'est la vraie parenthèse. Enfin, il fait froid, c'est hyper positif pour les enfants. En fait, on pense avant tout aux enfants quand c'est Noël. Et donc forcément,
et nous, on redevient éventuellement des enfants aussi.
Oui, ça permet un peu de repartir dans ses souvenirs d'enfance. Et en tant que parent, vouloir faire plaisir à ses enfants, les voir heureux, rigoler, enfin, c'est vrai que c'est hyper important. Donc ça se cristallise autour de Noël. Et on a tous envie de se faire plaisir les uns les autres. Enfin, c'est un vrai moment privilégié. Et ces rituels, finalement, ça ponctue l'année comme les saisons. Et à chaque saison, il y a un petit peu sa fête, son petit truc. Et c'est un moment de famille, de partage qui est sympa.
On a souvent, je trouve, Clémence, un petit coup de blues hein, au mois de novembre. Les journées raccourcissent, le froid arrive. Mais j'ai l'impression quand même que le moral commence à aller un petit peu mieux en décembre. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce que ce sont les décorations, les lumières qui peuvent peut-être booster notre moral ?
Ah, c'est sûr qu'on s'en met plein les yeux. Entre la promesse des cadeaux, les lumières, le rendez-vous, on met vraiment que du positif et que de l'excitation. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin des vacances de Noël, on n'a rien fait, mais tout le monde est épuisé. Les enfants ont été des piles électriques. Voilà, il y a une énergie qui, effectivement, qui est très différente de celle de novembre, quand même.
C'est ça. Alain Cabantous, si on est si excité à l'approche des fêtes, c'est aussi parce que ça rime bien souvent avec réunion familiale. On sait toujours réunir, retrouver, je ne crois pas, parce que d'après ce que vous nous disiez tout à l'heure, la grande table avec toute la famille autour au moment de Noël, ça n'a pas toujours existé. Hein.
Alors, si, ça existait, mais c'était une... Ça avait une dimension qui était complètement différente de la nôtre, puisque effectivement, la nuit de Noël, la famille se réunissait, sans forcément faire venir des gens d'assez loin, mais la famille se réunissait, mais elle se réunissait aussi avec les morts. Mmh. Et ça, c'est évidemment une dimension qu'on a complètement perdue hein, pendant très longtemps, jusqu'au milieu du 19e siècle, même après. Au moment du repas, par exemple, on mange, mais aussi on dresse une table pour les morts.
Ah, oui.
Les morts de la famille, pour que la mémoire continue d'exister.
Clémence ou Aurélie, le fait d'acheter des cadeaux afin de passer, bien sûr, sa commande au Père Noël, ça aussi, ça nous fait du bien. Parce qu'en plus, il y a des études, hein, je crois, qui montrent que le fait de donner, d'offrir, et donc pas seulement de recevoir, hein, ça nous fait du bien.
Oui, je crois qu'on se sent bon. C'est plutôt agréable de voir la joie. D'ailleurs, il arrive souvent de prendre plus de plaisir à offrir qu'à recevoir. Et on peut passer un peu rapidement sur ses propres cadeaux et prendre un soin infini. Ça peut être très long d'ailleurs hein, de trouver ses cadeaux au bon prix et pour chaque bonne personne.
Faut être sûr que ça fera vraiment plaisir.
C'est... Exactement, ouais. Les gens ils voient quand même une grande preuve d'amour.
Mélanie, vous voulez pas raconter l'histoire de votre maman et de la crèche là ? C'est fou ce qu'elle fait. Écoutez ce que fait la maman de Mélanie Gomez. C'est vrai que ma maman elle fait une crèche extraordinaire, hein, une crèche donc mais géante. Hein, ça fait la moitié du salon à peu près autour de la cheminée. Je la mettrai sur Instagram. Hein, je l'ai dit
ouais,
ce
elle
soir.
Magnifique.
Elle y sera, elle est sublime avec des santons provençaux très très beaux. Il y a tous les personnages, le berger, le potager. Enfin on a tout évidemment. Il y a la Vierge avec le petit Jésus. Enfin le petit Jésus il est pas encore dedans, hein, mais il viendra. L'histoire de la crèche, justement, et le fait de faire des crèches chez nous, sous le sapin, ça existe depuis quand, Alain ?
Alors, c'est un petit peu comme pour l'histoire du sapin, si vous voulez. C'est-à-dire que depuis, on s'est inspiré de la crèche de Saint-François d'Assise, là, du début du XIIIe siècle, mais surtout pour installer des crèches, soit dans les églises, soit dans les couvents. Ce n'est que très lentement, que progressivement, dans l'aristocratie d'abord, et puis ensuite, dans un certain nombre d'autres milieux, on a installé des crèches domestiques. Et bien sûr, ça, c'est un élément qui est surtout méditerranéen. D'abord, il y a deux ensembles.
Elle a Perpignan,
il y a...
ma maman. Hein, donc
voilà, il y a l'Italie, il y a la Provence, enfin, il y a toute la région méditerranéenne. Et puis, il y a l'autre côté, quand même, l'autre partie, l'Autriche, la Bavière, qui ont, je dirais, développé ça. Pas du tout dans le monde protestant, par contre.
Voilà, on a... Oui, il y a des différences évidemment entre ces deux mondes. Aurélie, la période de Noël, c'est aussi pour beaucoup de personnes la première vraie pause de l'été, si jamais on n'a pas pris de vacances à l'automne.
Première pause depuis l'été, pas de l'été.
J'ai dit de l'été.
Oui, Noël, c'est en hiver.
Vous avez compris. Oui. Mais moi, je suis au bout du rouleau. Hein, je vous le dis franchement, j'ai pas pris de vacances.
Je crois qu'elle parlait pour elle, en fait.
Voilà, exactement. J'ai pas pris de vacances. Est-ce que vous pensez vraiment que ça concerne beaucoup de monde ? Est-ce que vous ressentez ça en consultation, qu'il est temps que ça s'arrête, en fait ?
Ah oui, là, tout le monde fait le décompte. Enfin, fait le décompte jusqu'au jour des vacances. En gros, les gens tiennent sur décembre. Et puis, il y a cette euphorie dont on parlait, où on doit chercher les cadeaux. Et comme on s'y prend tous un peu tard, c'était noir de monde, c'est fatigant. Enfin, puis, on a envie d'arriver au bout de nos objectifs. Et puis, évidemment, le truc que le petit dernier veut est en rupture de stock partout.
Ouais, ça m'est arrivé,
enfin, on a quand même un peu des stress de dernière minute, surtout par rapport aux enfants, par rapport aux grands. Bon, ils peuvent comprendre, mais c'est vrai que c'est un vrai moment... voilà, qu'on a tous attendu avec impatience ces vacances. Et je trouve que même dès novembre, quand il commence un peu à faire froid et tout ça, Il y a les matins, on le réveille sonne, on se dit « Oh, j'aimerais trop rester dans mon lit, regarder un film. » Et à Noël, là, les vacances dans lesquelles nous sommes, on a le droit de le faire.
Ah, justement, ça, vous avez parlé des films. Alors Clémence, je me tourne vers vous. Depuis des semaines, hein, j'en connais certains, je ne citerai personne, mais il y a un certain Benjamin Lévesque, un certain Roman Dordor en régie là, qui nous écoute. Ils regardent des films de Noël en boucle depuis des semaines sur toutes les plateformes, Disney, Netflix, tout ce que vous voulez. On est d'accord, ces films, on les kiffe, mais ils sont nuls quand même.
Non, pourquoi vous dites mais... Franchement,
moi j'adore.
Ça finit toujours. Non, mais on sait très bien comment ça va finir. Ça finit toujours bien. C'est un peu cucu la praline. Pourquoi on les aime tant, Clémence ?
Alors moi, je sais pas. Je regardais des péplums quand j'étais petite. C'était pas cucu la praline
moi,
du tout.
Les vous aviez raison. Il y avait les péplums à cette période-là. Quand
exactement.
J'adorais ça.
Je pense que les péplums, ce qui était marrant, c'est que ça durait 5 heures. Ce qui était inimaginable de regarder la télé 5 heures quand on était enfant.
Heureusement, les films de Noël en général, c'est 1h30.
c'est ça. Mais les trucs un peu cucu la fraise, je crois que ça rejoint tout le reste du process entre les cadeaux, l'excitation, les lumières. C'est surtout qu'il y a une grande forme de lâcher prise en fait. On lâche prise. Les dépenses sont. Alors évidemment, les gens sont obligés de faire attention, mais on sait que les gens calculent. Mais il y a du lâcher prise dans les cadeaux. Mmh. Allez, on se fait plaisir sur l'alcool, sur la nourriture, sur les cadeaux. On va trop loin et finalement sur la télé aussi. Ben on lâche prise, on regarde des trucs.
On prend pas de risque psychologique à regarder ces films-là. On sait comment ça va finir bien. Ah mais oui, et puis alors ce qui est rigolo, c'est que Clémence et moi, on est très différents. Donc
j'allais
moi,
dire,
évidemment,
faut pas lui demander ça à elle.
Les films
que vous regardez, vous, Aurélie
foireux.
Mais moi, j'adore. Mais vous regardez quoi, par exemple, à Noël ?
Love Actually, pour la 18e fois.
Ah, oui, mais moi, je peux tous me les faire. Même les trucs romantico, foireux, je peux me faire...
Si, Impératrice, vous pouvez ?
Ah mais j'adore.
C'est Angélique.
Angélique, Marquise des
Anges. Mais j'adore.
Oh et les deux Funès aussi.
Mais surtout
ce qui est régressif, en fait.
Mais en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'une fois de plus, pendant cette période de Noël, on adore tout ça. Et là, on se dit, ben, en fait, là, j'ai le droit de m'en faire 4 si ça me fait plaisir. Parce que c'est partout, donc c'est pas forcément que
vous avez
mon
des
choix.
Préconisations pour des films à regarder avec des enfants, justement. Vous pensez qu'on peut leur montrer des vieux films comme ceux qu'on regardait petits ? Est-ce que c'est un moment où on peut faire de la transmission aussi à travers
on
les films ?
On peut tenter, mais parfois ça marche pas toujours. On peut avoir un souvenir de film que nous on a trouvé super quand on était petit, on leur montre et on voit, ils sont là, c'est totalement nul. Enfin, il y a des trucs en fait qui ont pris un petit coup de vieux quand même.
Ouais.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun.
Ah, ça fait du bien cet esprit de Noël qui s'est abattu sur Bien fait pour vous, l'émission que vous êtes en train d'écouter sur Europe 1. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez ce matin, on cherche à retrouver, à décrypter avec vous pourquoi l'esprit de Noël nous fait tant de bien. Enfin, pour la majorité des gens. Et puis, si vous détestez Noël, c'est pas grave. C'est votre droit. Et dans l'émission, on parle aussi d'histoire avec notre invité Alain Cabantous, historien, professeur émérite d'histoire et l'auteur du livre Noël, une si longue histoire chez Payot. Alors, justement, Alain, avec Noël, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas d'ailleurs, qu'on le fête ou pas, il y a toujours la notion de trêve de Noël. Ça vient d'où, cette tradition ?
Alors, oui, enfin, c'est, je ne sais pas à quoi vous faites allusion exactement.
Bah, au fait qu'on évite de s'engueuler.
La trêve des confiseurs, c'est quelque chose qui est relativement récent, qui date de la Troisième République. Autrement dit, c'était l'arrêt des oppositions et des polémiques entre les hommes politiques, entre Noël et le jour de l'an. C'est ce qu'on appelait la trêve des confiseurs. Mmh. Mais s'agissant des périodes plus anciennes, par exemple, la trêve de la guerre n'existait quasiment pas, enfin, sauf évidemment exception, notamment la guerre de 1914-1918, où il y a eu des fraternisations au moment de la nuit de Noël entre les Allemands et les Anglais. Et notamment parce que, c'est pas partout, notamment parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands qui avaient été mobilisés, mais qui auparavant travaillaient en Angleterre, et ils étaient habitués à une certaine pratique de ce côté-là. Quand les Anglais ont commencé à chanter des chants, les Allemands ont répondu. Bon, mais c'est assez exceptionnel.
D'accord.
Sinon, auparavant, n'y a pas de trêve de guerre, puisque, en principe, il n'y a pas de guerre pendant l'hiver, pour des raisons qui sont à la fois tactiques et stratégiques.
Très bien. Alors, avec nous également, elles sont toujours en studio, Clémence Prompsy et Aurélie Calais. Vous êtes psychologue et fondatrice de Kids and Family. Vous nous aidez à comprendre ce que provoque Noël sur notre psychisme ce matin. Alors, on va tout de suite écouter un truc qui marche à tous les coups.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun.
C'est vrai, c'est joli, mais c'est Frank Sinatra.
Ouais, mais c'est très à l'américaine. Hein.
Ouais, mais ça fait beaucoup de bien, moi, je trouve. En tout cas, ça nous détend. On aime tous écouter ça.
Ouais, on adore.
Plus celle de Mariah Carey qui me fait de l'effet.
Ah oui, mais on l'écoute
tous les jours, là, depuis le début de la semaine. Alors, on a changé aujourd'hui.
Mais justement, Alain, est-ce qu'on n'est pas un peu, nous, contaminés par les célébrations de Noël à l'américaine qu'on voit dans les téléfilms? Eh ben voilà, vous avez Mariah Carey.
Voilà, Aurélie, cadeau.
Je sais pas, vous voyez les maisons hyper décorées, le fait de mettre un pull moche de Noël comme nos invités. Je suis désolée les filles, c'est vrai qu'il est pas terrible votre pull, mais
pour ceux qui ont la vidéo. Hein.
Mais ouais, c'est vraiment un vrai pull moche de Noël comme on les aime. Vous parlez même du phénomène d'acculturation.
Oui, c'est
Alain,
ça.
Alain, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que en fait, les cultures originelles sont, je dirais, intégrées ou sont modifiées par une culture dominante. Il est bien évident que surtout depuis 1945, il y a la culture dominante américaine, justement par l'intermédiaire des médias, et on parlait des films tout à l'heure, qui ont joué un rôle très important hein, dans l'organisation des décors de Noël et des symboliques de Noël. Même si, je le rappelle, Noël n'est pas la fête la plus importante aux États-Unis, c'est Thanksgiving quand
oui,
même.
Oui, c'est hein, vrai, c'est vrai. Mais vous savez que c'est en train de venir jusqu'à nous, Thanksgiving. Hein, on sent, hein,
comme Halloween. Comme Halloween.
Ouais. Tout à fait.
On les récupère tous.
Clémence, on a parlé du positif hein, durant les fêtes de fin d'année jusque-là, mais il y a aussi, évidemment, beaucoup de personnes qui n'aiment pas Noël, ni les fêtes de fin d'année, pour de multiples raisons. Il y a même des gens qui ont une phobie de Noël. Comment c'est possible qu'on en arrive là?
Bah, c'est le même process que le rituel, la routine dont vous parliez. Quand on a ritualisé des Noëls qui sont tristes ou des Noëls qui sont stressants, parce que Aurélie le disait tout à l'heure, c'est beaucoup de stress et on essaye de coller à une image parfois de perfection d'Instagram américain des années 60 et finalement on n'a pas toujours la famille qui y colle. Mmh. Et Noël, c'est parfois la photo où il manque quelqu'un, où il manque quelque chose et ça vient nous le rappeler.
Quel bon conseil de psy vous pourriez donner justement à ces gens chez qui c'est trop difficile, quoi. Fuir, aller faire autre chose, enfin en ce moment le contexte sanitaire est compliqué, mais quel est votre bon conseil pour ces gens-là, pour qui c'est douloureux Noël?
Oui, c'est une bonne idée. C'est vrai que je pense qu'il faut rester sur le lâcher prise. Eh bien, lâchons prise, et puis pas de sapin, et allons faire le Noël des orphelins avec plein de potes, et faisons-le différemment, s'autoriser.
Alors, on parlait tout à l'heure du stress, hein, de tout ce qu'il y a à faire en période de Noël. La charge mentale aussi des mères de famille est particulièrement élevée durant les fêtes. Il faut aussi penser au repas de Noël, qui invitait les embrouilles de famille, tout ça, on connaît ça par cœur. Alors, pour éviter le burn-out de Noël, est-ce que vous avez, par exemple, Aurélie, quelques conseils pour les parents déjà épuisés qui nous écoutent?
Je pense que c'est valable pour Noël, pour la préparation du réveillon, comme pour plein d'autres moments qu'on a dans la vie en tant que parent. C'est si possible d'anticiper les choses. Je veux dire, Noël, on sait que c'est quand même chaque année à la même date, on n'a pas trop de suspense sur le sujet. C'est vrai. Mais même moi, je me suis fait avoir à acheter des cadeaux il y a deux jours, or que je le sais que ça allait être galère. Enfin, donc voilà, essayer d'anticiper le plus possible.
Et alors pourquoi vous n'avez pas anticipé, vous?
Moi, tout était fini le 10 décembre. Hein. Je suis hyper organisée.
Bravo,
avec Noël,
je ne sais pas pourquoi.
Mais c'est vachement bien. Ouais. Mais je pense que
j'ai un
plus...
toc avec Noël. C'est dès le mois de novembre, j'achète tout.
Mais c'est vous qui avez raison, parce que là, du coup, vous êtes hyper zen quand d'autres le sont un peu moins. Mais si on peut anticiper, ne pas hésiter aussi à demander de l'aide. Je veux dire, si on fait Noël en famille, de ne pas vouloir tout maîtriser, se dire que je vais gérer la déco, les cadeaux, enfin voilà, un peu s'occuper de l'entrée. Ça peut aussi être sympa de se partager les tâches. Voilà.
Je crois que vous avez quelque chose à nous dire, Clémence.
Oui, je crois qu'il y a des années, notamment dans la parentalité, où il faut aussi prendre du recul sur la perfection et se dire que cette année, alors on ne va peut-être pas manger des cacahuètes, mais faire beaucoup plus simple et se dire qu'on récupérera la perfection de la déco et du repas à 5 étages dans 10 ans. Chaque âge, chaque plaisir. Et finalement, quand on est une jeune maman, voir ses enfants ouvrir des paquets, c'est peut-être le plus important. Et le méga repas sera plus important dans 5 ans.
Avec la méga déco et tout le monde bien habillé, bien peigné.
Chaque âge,
on s'en
un
fiche,
plaisir différent.
En fait. Alors Alain, justement, il y a une personne qui est incontournable à Noël. C'est le grand, le majestueux, le Père Noël, qui doit être bien occupé au moment où on se parle. D'ailleurs, dans la tradition, Alain Cabantous, il est apparu quand, notre cher Père Noël?
Alors, dans la tradition européenne, il apparaît après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Auparavant, dans les pays européens, en fonction de la culture, c'est Saint-Nicolas qui distribue les cadeaux dans les régions de Lorraine, d'Alsace ou Suisse, par exemple. C'est la Bafana en Italie, qui est à la fois une sorcière bienveillante et malveillante. Ce sont les rois mages en Espagne. L'enfant Jésus, parfois aussi, ou l'enfant Christ, ça dépend si on est protestant
ou catholique. Oui, donc il est né après la Seconde Guerre mondiale, il est assez vieux quand même. Hein.
Alors, il existait, évidemment, son existence est tout à fait étonnante, puisque c'est un conteur américain qui, au début du 19e siècle, a écrit un conte pour enfants en disant que Saint-Nicolas, parce que Santa Claus, c'est Saint-Nicolas, c'est personne d'autre. Le Père Noël, c'est un, je dirais, c'est un ersatz de Saint-Nicolas, un ersatz laïcisé.
C'est son cousin, quoi.
Toujours.
C'est un vieux cousin, quoi.
Voilà, un cousin, si vous voulez, mais même pas à la mode de Bretagne, c'est un vrai cousin.
Mais est-ce que c'est vraiment Coca-Cola qui a suggéré au Père Noël de se revêtir de rouge et de blanc? Parce que je crois, au départ, il n'avait pas du tout ce genre de couleur dans sa garde-robe, hein, le Père Noël.
Alors, à partir du conte dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire où on voit un bonhomme Noël qui a un traîneau, des rennes et qui se balade dans le ciel, progressivement, les illustrateurs américains ont pris cette image d'un petit bonhomme joufflu qui fumait sa pipe. Et puis on l'a affublé, notamment un illustrateur d'origine allemande, c'est pas un hasard, qui s'appelle Thomas Nast, en 1863, de rouge et de blanc.
Donc, c'est pas Coca.
Et c'est Coca qui a repris ça en 1931, mais n'a rien inventé du tout.
Ah bah, c'est bien de remettre les choses à sa place. Et depuis quand les enfants écrivent justement des lettres au Père Noël?
Alors ça, je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays européens. Je sais qu'en France, ça existe depuis 1962.
Ah,
et c'est le ministre des PTT, dont la sœur s'appelait Françoise Dolto, qui a eu l'idée de demander à sa sœur de rédiger une lettre réponse du Père Noël.
Génial. Ah, donc la lettre que reçoivent les enfants de réponse a été rédigée par Françoise Dolto, c'est génial.
Non, c'est le Père Noël qui répond.
Pardon, excusez-moi.
La poste, si les enfants reçoivent une réponse, mais jusqu'à une période relativement récente, il y avait une espèce de réponse qui avait été standard au départ et qui avait été rédigée par Dolto.
C'est drôle. Alors, on a une question pour vous, Clémence. Hein, c'est Sarah sur Instagram qui dit « Chaque année, je profite, hein, je l'avoue, de décembre pour dire à ma fille que si elle est pas sage, le Père Noël ne lui apportera pas de cadeau. Ça me permet d'avoir un peu la paix. Est-ce que vous validez, éducativement parlant, cette méthode qui est également utilisée par Mélanie Gomez avec sa petite fille ?»
D'où vous balancez mes trucs, là? Non, mais ça va pas.
Bah alors, si Mélanie le fait, on va dire que c'est une super idée, ouais, Mélanie. Évidemment. Bravo. Quand on est un peu...
Ça s'arrête malheureusement demain matin chez moi, mais bon, j'en ai profité.
Adieu, calme.
C'est ça.
C'est vrai que quand on est un peu extrême dans la discipline positive et la discipline bienveillante, ça s'apparente à du chantage affectif. Sous-entendu, le Père Noël t'aimerait plus si tu... Alors j'ai entendu là, Alain, vous disiez une sorcière en Italie qui faisait, en gros, qui pouvait être gentille ou méchante. Et je me dis peut-être qu'effectivement, ça vient de là aussi, le fait qu'on sera récompensé ou pas de nos bons gestes en tant qu'enfant. Mais
Saint-Nicolas est toujours accompagné du Père Fouettard.
Bien
aussi,
sûr. Hein, ah, il n'est pas
Jésus
tout seul.
Jésus est accompagné aussi de son double négatif.
C'est pas mal, on peut peut-être dire que le Père Noël a lui aussi son Père Fouettard à côté. Enfin, je sais pas, on peut inventer des histoires.
Tant que ça marche, ça donne des résultats.
Non, moi, les psychologues sont pas d'accord.
Non, après, ce qui est plus embêtant, en fait, c'est que c'est toujours de dire quelque chose aux enfants où, au final, on ne va pas le faire. C'est-à-dire que s'il y a des enfants, c'est plus fort qu'eux, parce qu'en ce moment, ils sont excités et qu'en fait, ils n'arrivent pas à respecter nos attentes de parents et qu'effectivement, tous les jours, on considère nous qui sont pas sages. Ils vont quand même avoir leur cadeau le 25 décembre.
Et vous ne nous conseillez pas de faire l'inverse, évidemment, ça serait affreux quand même.
De ne pas mettre de cadeau du tout.
Oh, là,
non, mais personne n'est capable
parole.
De le faire. C'est pour ça que je dis, en fait, le chantage reste toujours avec d'énormes limites. Donc ça peut marcher, mais ça marche à très court terme.
Ouais.
Donc si on peut trouver, plutôt encourager à dire... Enfin, plutôt faire ça sous forme de manière positive, plutôt que de dire si t'es pas sage, il viendra pas.
Mais par exemple, si t'es sage, t'auras encore un plus gros cadeau. C'est positif.
Ou un cadeau
ça.
En plus.
Non, elle aime pas toujours.
Non plus, ça va, c'est pas validé.
Bon, on est des psychologues nazes. Hein.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Jusqu'à 12h30, c'est votre émission Bien-être tous les matins. Émission qui s'est décorée aujourd'hui. L'esprit de Noël est bien là dans ce studio. Ce matin, je vous le garantis. Alors pour en parler justement, nos invités autour de la table sont les suivants. Clémence Prompsy, Aurélie Calais, psychologue et fondatrice de Kids et Family. Avec nous également Alain Cabantous, historien, professeur émérite d'histoire et l'auteur du livre « Noël, une si longue histoire » paru chez Payot. Alain, question d'histoire pratique cette fois. Nombre de gens préparent leur dîner de réveillon en ce moment même ou alors dans les heures qui vont venir. On a toujours mangé de la bûche, de la dinde, des huîtres le 24 au soir. Ou alors ça aussi c'est très récent finalement.
Non. Pas du tout. La dinde, ça, c'est une invention anglaise, si je puis dire, et pour laquelle Dickens n'est pas à une certaine responsabilité, malgré tout. Hein. Donc, tant pis pour les dindes. Et, Donc ça, c'est arrivé dans l'Europe continentale un tout petit peu plus tard. Mmh. Quant à la bûche, alors la bûche, c'est simplement l'expression, je dirais, culinaire d'une tradition plus ancienne de la famille, justement, puisqu'il y avait un rituel de la bûche, mais de la vraie bûche, en vrai bois, si je puis dire.
Ah oui, c'est beaucoup moins digeste.
Oui, mais ce n'était pas fait pour ça. Ah. Le 24 décembre, c'est-à-dire que le plus âgé de la famille et le plus jeune de la famille prenaient une bûche qui avait été coupée dans un arbre fruitier, et pas autrement, et faisaient le tour de la maison, versaient sur la bûche soit de l'huile, soit du vin pour la fortifier, et ensuite la mettaient dans l'âtre.
D'accord.
Pour, je dirais, garantir le feu du foyer. Et ces cendres, ensuite, avaient été récupérées et elles servaient d'éléments prophylactiques pour protéger la maison, pour protéger la grange, pour protéger l'écurie ou l'étable. Non, hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, ça existait essentiellement dans le monde rural. Et la bûche, comme pâtisserie, dont l'invention est, je dirais, revendiquée par des Parisiens dans les années 1840, les Lyonnais dans les années 1860 et les Modégasques dans les années 1890. Donc, vous choisissez là aussi. Vous choisissez
en
là aussi.
En fonction de notre région d'origine.
En fait, quand on mange la bûche, on ne fait que réitérer d'une autre manière une symbolique qui existait précédemment.
On l'enfourne dans l'estomac et plus dans l'âtre.
Ah oui, exactement, voilà. C'est bien résumé, Mélanie. Alors, on a une question pour vous, Aurélie, qui nous vient de Léonard, au 39-21. Il dit, pour moi, Noël est plutôt un signe d'angoisse. Je ne sais jamais quel cadeau acheter et j'ai toujours peur que ça ne plaise pas. Alors, comment gérer ça ?
Alors oui, c'est vrai, c'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure sur cette quête de perfection, de ne pas se tromper, de bien faire. Moi, je trouve que maintenant, il y a plein de possibilités de chèques cadeaux, de week-end vacances, trucs beauté. Donc voilà, c'est sûr que c'est moins personnalisé, mais à un moment donné...
On est sûr de ne pas se tromper. Hein.
Ouais, si c'est une source de stress et de prise de tête, et même pour celui qui le reçoit, parfois c'est chouette d'avoir un truc qu'on peut choisir soi-même, parce que recevoir un cadeau qu'on déteste, c'est vrai que ce n'est pas agréable, on n'ose pas le changer. Ouais. Donc l'idée, c'est toujours que ça fasse plaisir aux gens, et vaut mieux quelque chose de neutre, où il peut prendre ce qu'il veut et que ça plaise.
Et offrir de l'argent, ça se fait ou pas ? Je pense aux adolescents. Enfin.
Les ados, ils demandent tous que des sous. Ouais. Enfin, moi, je connais quasiment aucun ado. Ou alors, ils ont une idée qui a été prise par l'arrière-grand-mère qui refuse de donner un billet. Ouais. Les ados, ils veulent des sous parce qu'en fait, ils veulent souvent des gros trucs. Mmh. Et donc, ils préfèrent accumuler. Et... Mmh.
Justement, c'est incroyable, on parle de cadeaux. Et notre invité surprise débarque à l'instant dans ce studio.
Oh, mais je ne m'attendais pas du tout à ça.
Bonjour Père Noël.
On vous a fait une petite place, Père Noël.
C'est quoi, Père Noël, ce cahier que vous avez sous le bras ?
Il va nous expliquer. Il va nous expliquer.
Je suis sûre que c'est l'adresse de tous les enfants que vous devez voir. C'est votre tournée, c'est bien ça ? Asseyez-vous, Père Noël.
Installez-vous à côté de moi. J'ai de la chance. Il restait une place juste à côté de moi.
Oui, mais moi, je l'ai en face. Il est encore plus beau.
Merci beaucoup, Père Noël, d'être avec nous aujourd'hui. Parce qu'on le sait, hein, votre emploi du temps est très, très serré. Mais vous teniez vraiment à être là pour les auditeurs d'Europe 1. Je viens de dévoiler donc votre identité, Père Noël. Est-ce que vous êtes prêt pour cette nuit ?
Ah oui, je suis prêt. Et vous savez que je suis prêt depuis très 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 longtemps, puisque je suis vraiment bien bien avancé avec mes lutins.
Mais bien sûr.
Vous savez que tout s'est transformé ces derniers temps.
Mais justement, comment vous faites pour tout gérer ? Parce que vous avez reçu des millions de lettres. Comment vous avez fait pour répondre
c'est
à tout
plus
le monde ?
Plus que des millions.
Ah bon ?
Rappelez-vous, nous sommes combien de milliards ?
Ah, mais oui, mais tout le monde. Et tout le monde vous a écrit une lettre. Tous les enfants du monde vous ont écrit une lettre.
Il a fallu que je m'organise. Au début, j'avais un renne, j'avais un tout petit traîneau. Depuis, j'ai 8 rennes et j'en ai même un 9e.
Oui.
Vous savez pourquoi ?
Non.
Eh bien, lorsqu'il y a de la brume, j'emmène Nez Rouge, le 9e. Et c'est lui qui me guide.
Mélanie, je comprends mieux. Est-ce que vous êtes passée à l'électrique concernant le traîneau ?
Regardez.
Ah oui, vous brillez mille feux en tout cas, vous êtes magnifique.
Il y a des guirlandes électriques sur son manteau.
Et c'est quoi le cadeau le plus dingue qu'on vous ait demandé, Père Noël ?
Ah, le cadeau le plus dingue ? Il y en a tellement, vous savez.
Oui.
Ça s'est tellement transformé au long des années. Il y a des années, bon, forcément, au tout début, lorsque je n'étais qu'avec un seul renne, c'était une orange, c'était un petit cadeau fait de briques et de brocs que nos lutins fabriquaient, avec un peu de bois, avec un peu de paille. Une petite poupée avec des chiffons.
Et maintenant, c'est des cadeaux énormes.
Et maintenant, c'est terrible.
Électronique. Hein.
Ouais. Mes lutins ont obligé de s'organiser. Ils sont devenus électroniciens. Eh oui.
Père Noël, dites-moi, il y a une question taboue, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce que vous allez donner aux enfants qui n'ont pas été tout à fait très sages cette année ?
Bah écoutez, ceux qui n'ont vraiment pas été très très sages, je pense que malgré tout, on va quand même faire un effort. On va quand même leur donner leur cadeau. Mais avec un petit sermon quand même.
Et qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit qu'on ne croit plus en vous ? Parce que ça, c'est terrible quand même. Parce que moi, j'ai entendu
y a des
gens
qui disent ça, c'est incroyable.
Qui disent, alors que moi, je vous vois en chair et en os et je vois bien que vous existez, Père Noël.
Bien sûr. Mais vous savez, je rencontre quelquefois des enfants qui me disent « Mais toi, tu n'es pas le vrai Père Noël, mais le vrai Père Noël va venir le 24 décembre. » Alors donc, bon, je lui dis « Mais non, c'est moi qui suis le vrai Père Noël. Bah » Voilà. Oui. Bien sûr.
Mais c'est vrai que parfois vous avez des plus petites lunettes, parfois vous avez des plus grosses lunettes, parfois votre barbe est un peu plus courte. En fait, vous changez de look parfois.
Et ça va, pareil.
Ah oui, vous lavez la barbe, parfois elle est plus frisée, bien sûr.
Bien entendu.
Bien sûr.
Comme vous, je lui ai la barbe, pareil. Hein, pareil, un jour non. Père Noël, s'il n'y a pas de cheminée chez les enfants, parce qu'on en a quelques-uns d'inquiets là, qui nous envoient des textos, enfin des messages sur Instagram, comment vous faites pour livrer les enfants qui n'ont pas de cheminée ?
Voilà. Dans les appartements, par exemple, bon, voilà, les lutins m'ont fait un trousseau de clés, mais faramineux. J'entre par la porte. Mais oui, bien sûr.
Ah oui, alors il ne faut rien mettre devant la porte.
Parce que les cheminées d'immeubles, c'est impossible. Comment vous pouvez vous trouver dans une cheminée ?
Et vous aimez manger quoi, vous, Père Noël ? Parce qu'on va dire aux enfants de vous laisser un petit quelque chose à côté du sapin. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?
Bien sûr. Bon, déjà, il faut quand même s'occuper pour mes rennes. Ils adorent les carottes.
Ah, beaucoup
ça,
de carottes,
c'est formidable,
d'accord.
Les carottes. Surtout, dites bien aux enfants de prévoir des carottes.
D'accord, ça serait.
Mais moi, je pense.
En plus, c'est bon pour la santé, pour tout le monde, hein, les carottes. C'est plein de bêta-carotène, mais tout ça,
tout
c'est
tout
bon pour la peau.
Vous voyez mon teint.
Voilà,
c'est les carottes.
Hein.
C'est les carottes,
bien sûr. Mais et il faut savoir que la nuit de Noël, bon, allez, Maman Noël va pas me faire ma soupe préférée. Parce que ma soupe préférée, en fait, c'est poireaux pommes de terre.
Ah mince, voilà, c'est pas la soupe de carottes.
Et là, non, ce sont pour les rennes, les carottes.
Ah pardon, j'ai confondu. Bon, Père Noël, on va être obligé de vous libérer parce qu'il faudrait pas vous mettre en retard sur la tournée. J'ai vu votre petit cahier avec toutes les adresses. Bonne chance pour cette nuit et puis surtout bon courage. Merci d'avoir fait un petit détour par le studio d'Europe 1. Merci Père Noël.
C'est très très gentil de m'avoir accueilli.
Vous reviendrez l'année prochaine.
Bien entendu, bien volontiers. Voilà.
Merci Père Noël.
Merci en tout cas pour votre bon accueil.
Bon Aurélie, je me tourne vers vous. Je vous voyais les yeux écarquillés. Aurélie ou Clémence, d'ailleurs, les deux, vous étiez épatés. Ça fait quoi d'avoir la chance d'avoir vu le Père Noël ? Vos patients vont être super jaloux, les petits patients.
Ah bah là, moi j'ai pris des photos, Clémence aussi.
Il reste 5 minutes parce que moi je voudrais une vraie photo avec moi.
Oui, oui, il est parti mais vous pouvez peut-être le rattraper, vous inquiétez pas.
Et vous Alain, qu'avant tout ce moment sera peut-être marqué dans les livres d'histoire, qui sait. Vous pensez d'ailleurs que dans 20 ou 30 ans, on va célébrer Noël de la même façon ? Comment on va faire ? Est-ce qu'on attendra toujours le Père Noël avec autant d'impatience dans les années qui viennent, à votre avis ?
Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas ? Parce que Noël était une fête qui a beaucoup de plasticité et qui s'est transformée au fur et à mesure, qui a incorporé un certain nombre de traditions qui n'étaient pas forcément européennes, etc. Donc, dans 30 ans, je ne sais pas ce que sera Noël. Je ne sais même pas si on continuera à fêter Noël, je ne sais pas.
En tout cas, le Père Noël avait l'air en forme. Je pense qu'il a encore quelques bonnes années
devant
lui.
Il peut encore tenir 30 ans, au moins. Mais
c'est
voilà.
Ça, je pense. Ça, c'est certain. Dernière question, Alain. On rêve tous d'avoir de la neige ce soir. Mais d'ailleurs, pourquoi on s'imagine toujours Noël sous la neige ? En tout cas, on en rêve. Il ne devrait pas beaucoup neiger à Bethléem, pourtant, quand Jésus est né.
Ah non, surtout si c'était au mois de mars ou au mois d'avril.
C'est ça.
Parce qu'on a là une image qui est liée aussi à l'hiver. Et je ne veux pas revenir sur ce que vous avez très bien dit tout à l'heure, hein, cette espèce de temps qui est long entre novembre, décembre, un temps de rupture que constitue Noël. Et puis, comme une partie des traditions quand même vient du monde germanique, eh bien, très souvent, il y avait de la neige à Noël, pour ne pas reprendre le titre du film que vous connaissez peut-être. Mais en réalité, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans l'hémisphère sud, par exemple, où on fête Noël,
On est en maillot de bain.
On est en plein été. Et moi, pourtant, il y a des Pères Noël comme on vient de le voir.
J'ai vu un Père Noël arriver en jet ski un jour.
Oui, ça ne m'étonne pas.
Mais je pense que ceux qui ont toujours connu ça, en fait, de fêter Noël au soleil, ça ne les dérange pas. Mais nous, on a pas mal de patients qui sont expatriés, qui ont eu leur souvenir d'enfance Noël avec la neige, enfin le froid, et qui vous disent, en fait, là, je n'ai pas l'impression de fêter Noël. Je ne rentre pas dans le truc. Je ne suis pas dans l'ambiance de Noël parce que ils n'ont pas connu ça et ça change complètement les repères. Quoi.
Bon, très bien. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés ce matin pour percer quelques-uns des mystères de la magie de Noël, neige ou pas ce soir. On vous souhaite en tout cas à tous les trois un très bon réveillon, de belles fêtes de fin d'année. Merci encore d'avoir célébré Noël quelques heures en avance avec nous.
Oui, merci beaucoup. Maintenant, Mélanie, il est l'heure de passer à notre séquence tendance. On va rester dans la magie de Noël avec les conseils culinaires tout d'abord de Marion Sauveur. Elle va nous donner ses meilleures astuces pour déguster le pain d'épices comme il se doit. Et ensuite, Cécile Coumeau sera également avec nous avec une tendance très douce et qui peut donner des idées cadeaux de dernière minute. Et si vous offriez un massage sonore, elle va nous expliquer exactement ce que c'est. Et puis, enfin, notre coach sportif Jean-Marc Delorme va terminer ce tour de table et il ne jouera pas les rabat-joies, mais il va nous donner quand même quelques conseils pour l'après-réveillon, comment se détoxifier un peu après les fêtes. On vous donne tous ces conseils avant les dégâts sur Europe 1. Alors restez avec nous.
Europe 1, bien fait pour vous. 11h30, Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine dédié à notre vie quotidienne. Ici, tous les jours, on partage avec vous tous nos bons plans, ces tendances qui nous font du bien. Et bien justement, dans la chronique gastronomie qui va suivre, on va vraiment se régaler et rester dans cet esprit de Noël qui nous anime depuis 11h. Bonjour Marion Sauveur.
Bonjour.
Alors, quel délice de Noël on va déguster avec vous aujourd'hui?
Alors, est-ce que vous sentez ces parfums de cannelle, de gingembre, d'anis, de miel? Noël approche, on va patienter jusqu'au réveillon et on va fabriquer des maisons en pain d'épices.
Wow. Est-ce qu'on a le temps de le faire là avant ce soir?
Mais oui.
Mais incroyable. Ce défi, on va voir si vous le relèverez vraiment, Julia. Ensuite, ce sera votre tour, Cécile Coumeau. Vous avez testé pour nous un truc nouveau qui peut même faire une belle idée cadeau pour les retardataires. C'est quoi alors votre bon plan du jour?
Ce sont les massages sonores. Et vous allez vibrer de plaisir, je vous promets.
Ouh, massages sonores. Quelle coquine.
Franchement. Qui fait du bruit? J'ai pas compris. Bon, on verra ça. Et enfin, on va terminer cette partie tendance du jour avec notre coach Jean-Marc Delorme. Et avec vous, Jean-Marc, bonjour.
Bonjour.
Sans culpabilité sur les excès à venir, car vous nous l'avez promis, on va quand même un peu anticiper, c'est bien ça?
C'est ça. Moi, aujourd'hui, je vais être là pour réparer les dégâts de ce soir et du prochain
réveillon.
Qui n'ont
même pas été causés encore, on est dans la prévention.
Prévention, pour que ça se passe le mieux possible et que vous restez en forme.
Merci voilà. Jean-Marc, ce sera à vous dans quelques minutes, mais tout de suite, c'est la chronique gastronomie de Bienfait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
C'était ouvert le micro. Il est un peu plus de midi et donc l'heure de passer en cuisine avec vous, Marion Sauveur. Aujourd'hui, on va se pencher sur un plat vraiment traditionnel à cette époque de l'année. Peut-être que certains de nos auditeurs en ont prévu pour le dîner de ce soir. Marion Sauveur, c'est un incontournable des fêtes de fin d'année, le pain d'épices.
Oui, impossible de passer l'hiver sans ce pain d'épices avec ses doux parfums de cannelle, la chaleur du gingembre, la fraîcheur de l'anis ou encore la gourmandise du miel. Pour nombreux d'entre nous, le pain d'épices, c'est un souvenir d'enfance, un gâteau qui sent Noël et que l'on aime partager en famille. Alors, est-ce que vous savez comment se fabrique le fameux pain d'épices?
Pas du tout. Aucune idée, mais je pense que c'est compliqué, je ne sais pas pourquoi.
Vous n'avez pas tort, Mélanie. Il faut de la patience, beaucoup de patience.
Mais ça, j'en ai pas du tout.
C'est le problème. Alors, on va commencer par mélanger de la farine avec du sucre. On peut rajouter du miel pour donner goût et que ce pain d'épices se conserve un petit peu mieux. On laisse reposer pendant plusieurs semaines et la pâte va alors fermenter. C'est ce qu'on appelle la pâte mère. Mmh. Et à cette pâte mère, on va ajouter ensuite les épices, les œufs, la levure avant de laisser reposer encore une fois plusieurs jours pour que les arômes se concentrent.
Et donc ce pour ce soir, c'est râpé quand même, hein, Marion.
Cette version-là, oui, ça c'est le vrai pain d'épices, effectivement. Et ensuite seulement, on va pouvoir le faire cuire. Donc il faut vraiment de la patience. Mais c'est un gâteau qui est quand même sans matière grasse.
Ah bon ?
Donc pas très calorique. Je sais, il y a du sucre, du miel
dedans.
Un petit
peu, on dirait quand même, oui.
300 calories pour 100 grammes de pain d'épices, ça va quand même.
Non, franchement, par rapport à d'autres, honnêtement, ça va très bien.
Hein. Enfin, moi, j'en ai goûté un, il était bien gras. Il était bien bon aussi.
Et puis c'est très digeste le pain d'épices.
Ben oui, mais ça vient d'où le pain d'épices d'ailleurs?
Alors, pas de France,
pas d'Europe, mais d'Asie.
Sérieux ?
Et même si on mangeait du pain au miel pendant l'Antiquité en Grèce ou en Égypte, le premier pain au miel agrémenté de plantes aromatiques était consommé en Chine. A priori, depuis le Xe siècle, on l'appelait le Mekong et il aurait été rapporté en Europe pendant les croisades. Alors, on ne sait pas vraiment où le pain d'épices français est apparu. C'est a priori à Reims où se sont installés les premiers pains d'épiciers. Mais une chose est sûre, il existait trois patries du pain d'épices à la fin du Moyen-Âge. Donc, Reims, où le pain d'épices c'était le plus réputé au XVIIe siècle, à Dijon et à Strasbourg. Aujourd'hui, à Reims, le pain d'épices fabriqué à partir de farine de seigle a presque complètement disparu de la ville. Il reste donc en France deux régions spécialistes du pain d'épices, l'Alsace et Dijon. Et chacun a ses spécialités. Alors, à Dijon, il reste une fabrique seulement de pain d'épices, c'est Mulot et Petit-Jean. C'est la spécialiste dans ce domaine, Catherine Petit-Jean, qui nous explique la recette traditionnelle dijonnaise.
Alors, le pain d'épices de Dijon est fabriqué à base de farine de froment. Une autre caractéristique, c'est que le pain d'épices de Dijon est assez peu épicé. Nous, on utilise l'anis qui donne un goût assez doux au pain d'épices.
Oh là là, mais en tout cas, bon, Julia a déjà quasiment fini son assiette, évidemment.
Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ce pain d'épices de Dijon?
Est-ce qu'on peut le goûter? Il y en a un dans l'assiette,
c'est ça.
Voilà. Bon, alors on va goûter.
Alors, est-ce que je peux me permettre de dire exactement ce que je pense?
Oui, bien sûr.
Je trouve un peu séco.
Moi aussi.
Alors, ça dépend en fait du temps, de l'humidité. C'est un pavé en fait. C'est celui-ci, vous voyez, c'est le pavé de Dijon. Et donc après, on le découpe. On peut rajouter du beurre au petit déjeuner. Ils adorent ça, les déjeuners.
Je pense qu'avec ce genre de pain d'épices, il faut mettre quelque chose dessus ou le tremper dans le thé.
Mais bien sûr.
Mais il est bon, hein. Franchement, il est très bien épicé, bon. C'est bien dosé, je trouve, très équilibré, je trouve ça délicieux.
Alors en Alsace, c'est là où se trouve la capitale du pain d'épices, Gerdwiller, un joli petit village aux maisons colorées, à colombages. Et Steve Rich de la fabrique Fort Wenger défend les couleurs alsaciennes.
On a deux types de farine en fait. On a la farine de froment, qui est la farine de blé, ou la farine de seigle. Nous, on est sur un mélange de cinq épices, hein, donc... Voilà, qui nous est propre. Chaque fabricant a sa recette d'épices secrètes. Nous avons également de l'anis, du gingembre, du clou d'girofle, de la cannelle. C'est le meilleur.
Alors, est-ce que c'est vraiment le meilleur?
Écoutez, je crois que je le préfère au précédent parce qu'il est plus moelleux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Tout à fait d'accord. Oh, j'avoue.
On ne peut pas dire que c'est le meilleur parce qu'il
est plus épicé. Oui, vous sentez un peu la différence des épices.
Mais on ne peut pas dire que c'est le meilleur parce qu'on ne les a pas encore tous goûtés.
Mais oui, alors je vous l'ai dit, le pain d'épices se mange soit au petit déjeuner, avec un peu de beurre ou nature, ou comme ça, au goûter. Et bien sûr, comme toast avec du foie gras ou du saumon fumé. Vous avez par exemple ici des toasts spéciales foie gras.
Julia, vous n'avez pas de réveillon ce soir, vous ne faites pas parce que vu tout ce que vous mangez, je pense que ça va être compliqué.
Mais vous faites, vous, le foie gras sur le pain d'épices?
Bien sûr.
Après, on choisit du pain d'épices plus ou moins épicé, justement, les spéciales foie gras. Il y a parfois plus de poivre à l'intérieur et ça donne plus de goût.
En tout cas, ceux-là sont bien meilleurs que ceux qu'on mange. Enfin, en tout cas, je trouve que ceux qu'on trouve en supermarché sont vraiment bien meilleurs.
Ça, c'est alors, en Alsace.
Très bien. Marion, en cette veille de Noël, on se lance dans un atelier pain d'épices. On vous écoute.
Mais oui, quoi de mieux pour cet après-midi que de construire donc une maison en pain d'épices? Ça vous tente?
Évidemment. Ouais, on vous écoute, hein, disons.
On va déjà commencer par faire notre pâte à pain d'épices. Je vous mettrai une recette sur europe1.fr. Une fois que vous avez cette pâte, vous découpez vos quatre murs, les deux pans pour le toit. Et l'idéal, c'est d'utiliser donc une roulette à pizza. Ça fera des coupes beaucoup plus nette et vous faites cuire ce pain d'épices. Et ensuite, on passe à l'assemblage avec du glaçage royal. Donc, c'est ce mélange de blanc d'œuf et de sucre et on en colle chaque morceau. Et vous pouvez donc vous amuser, par exemple, à faire des jolis vitraux avec des bonbons que vous allez faire fondre et donc des bonbons colorés. Et ça va permettre de faire de la transparence pour les vitres.
Vous pourrez nous mettre cette recette sur europe1.fr.
Mais bien sûr,
là, aujourd'hui, entre maintenant et ce soir, on n'aura pas le temps, clairement. Mais par contre, pendant les vacances, qui on sait, avec les enfants, ça peut être très sympa.
Mais c'est très chouette à faire. Il existe déjà des maisons en pain d'épices toutes faites.
Ça, c'est
ou
pour Julia.
En kit. Donc, vous avez les maisons, par exemple, en kit, comme c'est ce que propose le pâtissier Sébastien Godard. Et donc, vous avez des maisons faciles à monter et qui donnent ces jolies petites maisons toutes prêtes.
C'est sublime.
Donc, avec des chutes de pain d'épices et vous fabriquez votre petite maison avec le glaçage.
Peut-être pour le kit, hein, c'est bien. Moi, j'aime bien le kit.
C'est génial.
Alors, ça, c'est Sébastien Godard à Paris. Et vous avez le nôtre aussi qui propose une maison en pain d'épices qui est trop mignonne, que vous pouvez aussi déguster.
On va la détruire donc la maison de pain d'épices.
Alors,
on va
Mélanie,
la
excusez-moi, je l'ai déjà engloutie.
Ouais. Ah oui,
non mais préparez-vous, c'est un choc.
Un choc, c'est-à-dire?
C'est tellement bon.
Ouais.
Alors celle-là,
Jean-Marc, il a goûté aussi.
Délicieux.
En fait, c'est une succession de pain d'épices moelleux.
Il est un peu cru à l'intérieur, c'est incroyable.
Et qui est encollé avec de la compotée d'orange.
Celle de la maison de Le Nôtre. Hein.
De Le Nôtre, voilà. Mmh. Alors là, vous avez vraiment les saveurs de Noël qui explosent en bouche.
C'est une tuerie même. Voilà. Même Jean-Marc Delorme, notre coach qui nous interdit de manger du sucre, eh ben, il dit qu'on peut y aller. Bon Marion, si on n'a pas envie de se lancer dans la maison en pain d'épices, mais juste fabriquer, faire un pain d'épices, réaliser un pain d'épices, est-ce que c'est jouable?
Oui, alors ce ne sera jamais le pain d'épices en tant que tel, mais un cake aux épices, ça c'est possible. Mmh. Cet après-midi, c'est simple à faire et c'est la recette de ma grand-mère. Mmh. Alors vous allez mélanger un peu de farine avec la levure, le sucre, les épices et le lait. Mmh. Et vous allez laisser infuser tout ça pendant une heure au frais. Ensuite, vous allez ajouter l'œuf et le miel et vous allez fouetter et direction le four. Vous
voyez, c'est tout ?
C'est tout simple, il n'y a pas grand-chose à faire. Ensuite, vous pouvez ajouter pour décorer quelques fruits confits, des fruits secs ou le découper en deux et mettre de la compotée d'orange, là aussi pour faire un peu comme cette jolie maison
mais
en pain d'épices de Le Nôtre.
Et pour demain matin quand on va se réveiller pour le petit-déj.
Mais oui, c'est parfait pour le matin de Noël.
J'adore
qu'est-ce que vous en pensez ?
La recette de Mamie Sauveur, franchement ça.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Les Jackson 5 fêtent déjà Noël, mais c'est bien fait pour vous, jusqu'à 12h30 surtout. Et notre séquence tendance continue en ce 24 décembre, une émission du début à la fin, complètement dans l'esprit de Noël. Alors justement, je me tourne vers vous, Cécile Coumeau, on est à la veille de Noël, mais vous n'avez pas résisté, vous vous êtes déjà fait un petit cadeau, coquine va. Vous êtes offert un massage, et pas n'importe lequel, il s'agit d'un massage sonore.
Oui, j'avais envie d'un petit avant-goût de clochette et de grelot du Père Noël. Non, en fait, je plaisante, hein, parce qu'avec le massage sonore, on va pas franchement en Laponie, mais plutôt vers l'Asie. Parce que les massages sonores utilisent des gongs et des bols tibétains, et ce sont les ondes qui vont masser tout votre corps. Okay. Alors je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure, mais pour vous plonger dans l'ambiance, je vous emmène avec moi chez Zen and Sounds, le premier centre de sonothérapie qui se trouve à Paris.
Donc on va démarrer le massage avec ce qu'on appelle des koshi, qui sont des petits carillons qui diffusent des notes très très douces et qui relaxent et qui tout de suite donnent confiance et aussi posent vraiment une ambiance de relaxation. On va démarrer à proprement parler le massage sonore avec d'abord l'utilisation d'un gong porté et puis les bols. Sont utilisés parfois sans contact avec le corps, juste comme ça au-dessus et à côté, et puis après à d'autres moments on les pose sur le corps. Quand on pose sur le corps, on utilise évidemment les trajets nerveux, les terminaisons nerveuses notamment qui sont à la surface de la peau notamment, et puis quand on utilise le bol juste au-dessus de vous ou à côté de vous, on utilise, on peut appeler ça les terminaisons énergétiques, hein, puisque elles s'étendent au-delà du corps. On travaille sur des chemins, on travaille aussi sur des centres en particulier. Là, je vais travailler sur le centre du bas du ventre, le deuxième chakra, qui est très important parce que c'est vraiment le centre vital. C'est celui qui donne toute notre énergie aux jambes, notamment. Alors, quand on a du mal à avancer, quand on a les jambes un peu qui traînent pendant une période, c'est que ça ne circule pas bien au niveau du ventre. Donc, c'est vraiment important de travailler régulièrement. On travaille aussi en yoga, en méditation. Voilà, c'est ce que je vais faire tout de suite.
Mais c'est génial. Mais alors Cécile, je voudrais comprendre. À aucun moment le masseur ne pose les mains sur vous ?
Exactement. Alors comme Élie, la fondatrice de Zen and Sounds, l'explique, ce sont les vibrations en fait qui vous massent. Et comme vous avez pu l'entendre, il y a des sons et des fréquences différentes. Les gongs avec un son très grave, hein, qui vous enveloppe vraiment. Les bols tibétains, et puis il y a des sortes de diapasons aussi qui sont posés là, sur vous, sur différents endroits bien précis de votre corps, qui ont des sonorités plus aiguës et qui pénètrent plus profondément dans le corps. Mmh. En plus, le cerveau y génère, comme les gongs, des ondes delta. C'est le rythme du sommeil profond. Donc grâce au massage, le cerveau se synchroniserait sur ce rythme, ce qui lui permettrait de déconnecter complètement le mental.
Mais est-ce que tous ces effets-là, ils sont prouvés, Cécile ?
Alors,
J'ai regardé, bien sûr, il y a quelques études qui ont prouvé que les massages sonores avaient des effets positifs sur l'humeur et qui faisaient ralentir les fréquences cardiaques et respiratoires. Certains hôpitaux américains, d'ailleurs, ont commencé à proposer des séances de gong à des personnes qui souffrent de dépression, par exemple. Et actuellement, il y a des chercheurs du CNRS qui essaient de décrypter vraiment ce mécanisme.
Bon, vous avez quand même un boulot assez sympa, Cécile, on va pas dire le contraire. Qu'est-ce que vous avez ressenti concrètement, vous ?
Vraiment, on sent l'onde se diffuser dans tout le corps. Vous voyez, l'image qui m'est venue quand j'étais là-bas, c'est celle d'un caillou qu'on lance sur l'eau. Vous savez, ça fait des petites vaguelettes. Et ben, c'est exactement ça que vous avez dans votre corps. Et puis, il y a un rythme très régulier comme ça. Et vraiment, vous vous sentez comme enveloppé. Ça fait une espèce de protection, vraiment, comme dans un bain.
Et au niveau du prix, est-ce que c'est apaisant?
Oui. Alors, ça coûte entre 80 et 90 euros. Ça dure une heure, hein, quand même.
Comme un massage,
voilà,
à peu
donc,
près.
Voilà, ouais. Exactement. C'est comme un massage.
C'est une bonne idée de cadeau de dernière minute. Hein,
voilà. Exactement.
Un petit bon d'achat, moi, ça me ferait drôlement plaisir, hein, si vous nous écoutez. En tout cas, merci Cécile pour ce moment de détente. Moi, j'adore les massages. Alors celui-là, franchement, je ne connaissais pas et je sais déjà ce que je vais ajouter sur ma liste du Père Noël. Il est parti ?
Mais oui, c'est dommage.
Ah mince.
On a son 06, vous inquiétez pas.
Bon, d'accord. Alors, ce qu'on va faire surtout tout de suite, c'est écouter notre coach, hein, Jean-Marc Delorme. Certains de nos auditeurs vont se dire, franchement, terminer une émission de Noël par du sport, c'est pas un cadeau. Mais si, parce qu'on est prévoyant, n'est-ce pas, Jean-Marc ?
Mais absolument. Alors déjà, sachez que c'est la période que je préfère parce que c'est la période qui va me ramener plein de clients au mois de juin. Et ça, c'est extraordinaire. Alors évidemment, ça commence ce soir avec le réveillon de Noël. Repas copieux, riche en graisse, en sucre, en alcool, enfin voilà, hein, tout ce qu'il faut pour réjouir le foie et le reste. Alors on ajoute à cela la fatigue, deux ou trois autres repas du même style, hein, chez mamie Josette, etc. Bon, on se doute que cette semaine va être un peu compliquée.
C'est le marathon du plaisir, hein, et des dégâts. Quoi.
Alors justement, comment on fait pour limiter les dégâts en amont ? Il y a une préparation à avoir ?
Absolument. Alors déjà, vous pouvez opter pour... Aujourd'hui, là, si vous avez encore un petit peu le temps, hein, jusqu'au réveillon.
Et on fait une maison en pain d'épices, normalement.
Alors oui, alors on va essayer de s'organiser quand même. Mais...
On peut faire deux équipes.
On peut faire deux équipes, absolument. Donc, mais une séance un peu longue de sport, peut-être un peu intense, type fractionné ou du HIIT.
Je suis dans la team pain d'épices, hein, mais continue.
C'est vrai. Enfin, je ramène des gens dans la team.
Non, je veux bien, mais alors le HIIT, rappelez-nous ce que c'est en gros.
Alors, c'est des courts instants
rapides
et intenses, musculairement parlant. Alors, du coup, ça va être très bien parce que le soir, lorsqu'on va manger, on ne va pas que stocker, on va aussi refaire nos stocks de glycogène. Donc déjà, on déculpabilise un peu plus. Hein,
ça veut
déjà.
Dire que quand on a fait du fractionné dans la journée, en fait, on continue un peu le travail, le corps continue de travailler,
alors,
même pendant qu'on s'en
fiche. Alors, lorsqu'on a fait un effort sportif, surtout un effort intense, on va utiliser les stocks de glycogène, d'accord ? Donc, le glycogène, c'est dans les pâtes, le riz, le pain, le machin, etc. Et donc, on va pouvoir les reconstituer lorsqu'on va manger.
Hein, ah, pas mal, okay ? Ça.
Moi, j'adore
l'idée. Déjà, ça, c'est pas mal. Après, la deuxième chose, c'est qu'il faut bien boire de l'eau.
L'eau surtout, ah oui, c'est ça,
hein,
l'eau.
Aujourd'hui, donc, vous pouvez commencer. Hein, c'est midi. D'ici, vous avez encore le temps de boire.
Même ce soir, un verre de vin, un verre d'eau surtout. Hein, et avec modération,
exactement,
l'alcool,
ça,
hein,
voilà,
évidemment.
Alors, ça, on va en parler après. L'eau va permettre d'empêcher de vous déshydrater, d'une part, et d'éliminer correctement les aliments un peu plus gras que vous allez ingérer ce soir.
Et qu'est-ce qu'on mange, là, à midi, tout
alors,
ça ?
Alors là, surtout... aujourd'hui, enfin, avec si vous n'avez pas encore
déjeuné... Julia, ce n'est pas la peine de déjeuner,
parce
que vous avez mangé.
Donc, surtout, ne jeûnez pas aujourd'hui. Surtout si vous n'avez pas l'habitude, ne jeûnez pas.
Ah, mince.
Mangez normalement, ça vous évitera ce soir de vous rabattre sur les petits fours, voilà, et de consommer des choses...
On est d'accord qu'avec les 8 tranches de pain d'épices qu'elle a avalées, c'est bon, elle
a
son repas.
Il n'y a même pas besoin de
là, je peux attendre ce soir 20h, hein, ouais. Je ne mange rien, je vous
même
promets.
Même demain midi, peut-être.
Non, mais je crois que vous conseillez un petit bouillon, c'est ça ? Enfin, 2 heures avant le réveillon.
Absolument. Et je vous conseille un petit bouillon 2 heures avant, si c'est possible, une petite soupe, parce que ça va vous réhydrater, et deux, c'est un effet de satiété quand
bien
même
sûr, un peu coupe-faim,
assez,
quoi.
Assez important.
Mais bon. Sauf qu'une fois qu'on est à table, alors c'est quoi vos astuces ?
Pour limiter les dégâts, encore une fois.
Alors, pour limiter les dégâts, alors déjà, la première chose, c'est évident, on va essayer d'être raisonnable, hein, de ne pas vider la bouteille de champagne, de
ne
pas
hein.
prendre 15 parts de foie gras, etc. Donc on essaie quand même d'être
de se
un
respecter.
Peu raisonnable. Et puis on va commencer surtout à prendre en début de repas des crudités, des salades.
Ouais.
Parce que pourquoi ? Premièrement, ça permet de contrôler la satiété, donc aussi, d'accord ?
Ouais,
il faut bien mastiquer.
Ouais.
Je viendrai pas chez vous ce soir.
Vous pouvez y aller. Vous êtes seule d'ailleurs,
c'est
non ?
Il y a plus de gras chez moi, Mélanie.
Je pense que vous allez mastiquer tout ça, Mélanie.
Mais c'est sympa.
Mais ça, rien ne vous empêche.
Désolé, on ne vous soutient pas beaucoup, Jean-Marc.
Moi, j'ai vu. Hein, je me sens très, 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 très seul.
Jean-Marc, on est déjà demain.
On okay. va parler au la... on va passer au lendemain direct. Parce qu'on va tous chez Marion ce soir.
On est le 25 décembre. Qu'est-ce qu'on peut faire, surtout si on est un peu abusé? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, le lendemain, évidemment, éviter les séances de sport trop techniques, etc.
Vous inquiétez pas.
Parce que
on n'est pas les bonnes clientes, je crois.
Là, on est bien parti pour faire une cheville ou. Voire plus grave, ça arrive tous les ans, mais j'ai des bons exemples de ça. Donc
non, mais vous inquiétez pas, on fera attention.
Une chose un peu importante, je termine sur ce qu'on doit faire le lendemain, c'est que surtout, faites attention, donc on est toujours sur l'effort sportif, même si vous ne vous sentez pas trop concerné pour le lendemain. Mais en tout cas, on va avoir du mal à puiser le sucre dans l'organisme à cause de l'alcool, et donc il y a un risque de malaise. Donc ça, c'est quand même drôle, il faut quand même faire très attention à ça.
Vous savez quoi, j'ai noté tous les risques, j'en ai. Donc en gros, comptez pas sur moi. Merci. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette chronique et ces conseils. On vous fera revenir début d'année. Je pense que c'est mieux, c'est plus raisonnable. Merci pour cette chronique Jean-Marc et ces conseils qui nous seront donc plus qu'utiles l'année prochaine. Pour le moment, on va surtout se régaler ce soir. Profitez des fêtes. D'ailleurs, toute l'équipe de Bienfait pour vous se joint à moi et vous souhaite un excellent réveillon, de belles fêtes de fin d'année. Cette émission est donc terminée. Mais on se retrouve lundi. Julia, lundi, qu'avons-nous au menu?
Alors lundi et toute la semaine prochaine, on vous propose un menu très spécial puisqu'on a concocté pour vous du très bien fait pour vous. Nos meilleurs moments depuis le début de la saison, que du pratique, des conseils, nos meilleurs bons plans que vous pourrez retrouver comme d'habitude dès 11h sur Europe 1. D'ici là, un très bon réveillon à tous.